Bonjour Maïr Guven.
Bonjour.
Votre livre met en scène un grand frère qui donne son titre au roman, un jeune homme chauffeur de VTC, autrement dit de voiture de transport avec chauffeur, et un petit frère, infirmier diplômé qui décide d'aller partir en mission humanitaire soigner des gens en Syrie. Syrie, pays dont est originaire leur père. Est-ce qu'à travers l'exemple de ces deux frères, si différents et pourtant proches dans leur mal-être, vous vouliez montrer l'angoisse de la jeunesse d'aujourd'hui ?
Oui, l'une des questions que je me suis posée après les attentats, mais pas que, ça a été de me dire pourquoi certains jeunes choisissent de partir en Syrie alors que d'autres jeunes migrent vers notre pays. Vous voyez, ça, c'était très compliqué à comprendre pour moi. Donc j'ai essayé de comprendre, je me suis replongé dans mon adolescence, dans mon enfance. Puis finalement, j'ai voulu raconter tout ça dans une grande histoire, une histoire humaine, une histoire fraternelle et une histoire familiale.
Le roman s'ouvre après la disparition de petit frère. Il est parti depuis 3-4 ans et un jour il revient. Et à partir de là, ils racontent l'un et l'autre, par chapitres alternés, leur version de l'histoire. L'un qui est resté donc en France et l'autre, ce qu'il a vécu en Syrie, non comme djihadiste, mais comme médecin. Comment avez-vous, Maïr Guven, documenté ces deux parties et particulièrement ce que vous racontez sur la Syrie?
Oui, alors j'ai trois sources majeures. La première source, c'est que je n'ai pas à m'en cacher, hein, je suis issu de la banlieue de Nantes. C'est l'enfance dans laquelle j'ai grandi, les sans-papiers. On était une famille sans-papiers, nous aussi. On a eu nos papiers ensuite, puis on est devenus français. Donc ça, c'était la première matière vive. C'est celle qu'on retrouve dans le langage. Ensuite, il y a toute la partie sur les chauffeurs de VTC et d'Uber. J'ai utilisé les outils classiques du journalisme. La discussion, l'interview, mais l'interview chaude. Et pour ça, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de recherches. Vous voyez, j'ai regardé sur Internet comment travaillait Zola ou Balzac. En fait, ils allaient librement interviewer les gens, parler avec eux, discuter avec eux. Ils récoltaient de la matière comme un cuisinier qui a son potager bio. Dans le garde-manger, ils remplissaient tout un tas d'éléments. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis documenté. Ça m'a pris quelques mois. C'était passionnant. Et puis, pour la partie en Syrie, c'était un peu plus compliqué. Dans le sens où je ne me suis pas rendu en Syrie. Du coup, j'ai lu beaucoup de travaux de chercheurs. J'ai rencontré un avocat pénaliste qui travaillait à la prison d'Oni, donc dans le nord de la France, avec les revenants, une partie des djihadistes revenants. Et puis, je me suis beaucoup documenté sur les blogs et les blogs vidéo. Vous savez, le premier ministre à l'époque était Manuel Valls et avait dit « tenter de comprendre, c'est compatir » ou quelque chose, « expliquer, c'est compatir ». Alors je me disais « bon, j'espère que je vais pas me faire arrêter parce que je suis allé consulter des blogs pour écrire un roman ». Mais en fait, il faut pas oublier que ces gens-là sont français et je m'en suis rendu compte, c'est qu'ils sont extrêmement bavards et souvent dans une langue pas trop mal d'ailleurs, hein, ils racontent le quotidien de ce qui se passait en Syrie. Donc je me rappelle d'un blogueur mode et lifestyle là-bas qui racontait la vie de Raqqa. Dans une langue plutôt assez simple à comprendre, qui racontait comment s'habiller, comment commander des vêtements, à quelle heure sont les parties de foot, comment gérer ses enfants, les rationnements. Enfin, il racontait tout ça, c'était assez passionnant. Donc voilà, je me suis documenté essentiellement grâce à Internet. Et il y a énormément de témoignages. Quand on cherche, vous voyez, les gens sont très bavards.
Alors la très très grande réussite de ce roman, c'est sa langue, cette écriture, où vous avez restitué tout le vocabulaire, les tournure de phrases de la rue, de la jeunesse, des banlieues. Vous avez un langage très imagé qui est non seulement formidablement juste, mais très drôle. Oui, on rit beaucoup. Et tout en restant très fidèle aux Français qui se parlent aujourd'hui autour de nous.
Oui, 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 c'est la langue dans laquelle j'ai grandi. Je ne vais pas le nier. Et la majorité des jeunes de moins de 35 ans aussi, via le lycée, le collège, etc. Ça ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, je parle comme ça. Mais ce qui veut dire que dans ma vie plus jeune, adolescente, dans nos petits groupes d'ados, on parlait comme ça. On disait « Wesh, alors ton daron, qu'est-ce qu'il raconte ?» etc. Et c'est vrai que cette langue, la jeunesse se l'est appropriée en France. C'est assez marrant de voir que les ados sont appropriés. C'est une langue qui est véhiculée par le rap aujourd'hui essentiellement. Et je voulais aussi rendre hommage à tout cet univers-là, vous voyez, l'adolescence, la jeunesse, parce que un jour ils vont devenir adultes et puis ils vont grandir avec ça. Et puis qui sait, peut-être qu'ils éditeront des rappeurs en Pléiade. Ça serait très transgressif, mais bon, c'est l'histoire des arts et de la littérature, voilà.
Précisément, vous avez reçu entre autres récompenses le Goncourt du premier roman. Que vous ont dit les jurés? Qui sont d'un âge plus avancé que vos protagonistes, on va dire.
Écoutez, c'était extrêmement émouvant parce que c'est Bernard Pivot donc qui a fait l'annonce. Pour quelqu'un de mon âge, j'ai une trentaine d'années, Bernard Pivot, c'est quelque chose. C'est la grande dictée, vous voyez, c'est vraiment le...
C'est une institution,
c'est une institution, Bernard Pivot, avec sa grande dictée. Vous voyez, on sacralisait la langue, on faisait la grande dictée en classe, on la corrigeait avec la cassette vidéo filmée de l'émission. Donc quand il l'a annoncé, c'est vrai que ça m'a paru très curieux, parce que je ne m'attendais pas à ce que l'Académie Goncourt et ses illustres écrivains trouvent une qualité à ce livre. Je me suis dit peut-être qu'ils vont être choqués. Et là, l'Académie, elle était très audacieuse, et la première chose qu'elle a citée, c'est la langue. Elle a dit, vous magnifiez la langue française, vous l'emmenez sur des terrains où elle n'est pas encore allée. Et du coup, ça m'a énormément touché, parce que c'est la reconnaissance d'un travail. Moi, je pensais être insolent en faisant ça. Vous voyez, je me suis dit, les gens vont croire que c'est de l'insolence, que je salis la langue. Des fois, on entend ce genre de choses, vous voyez, sur les rappeurs. Ils salissent la langue, ils ne savent pas parler, etc. Je m'attendais à ce genre de réaction, j'avais peur. Et puis, quand j'ai écrit, je me suis dit, allez, tu fais comme t'as envie de faire. Tu racontes le monde tel qu'il est. C'est vrai qu'un chauffeur de VTC qui parle à la première personne, je l'aurais fait parler à l'imparfait passé simple, on m'aurait dit « tu es non crédible ». Là, ça a fonctionné. Donc c'était vraiment un moment très chouette, très émouvant. Voilà.
Merci beaucoup, Maher Guven. Je rappelle le titre de ce roman, « Grand frère », qui a paru aux éditions Philippe Ray.